La lettre d'une auditrice m'a beaucoup touché. Par le témoignage qu'elle constitue de l'influence de la parole de Dieu dans sa vie, mais aussi par les craintes qu'elle exprime de ne pas être à la hauteur des exigences de Dieu. Qu'il me soit permis d'en citer ici quelques passages. Son auteur n'aura aucune peine à se reconnaître, et je suis persuadé que d'autres auditeurs et auditrices trouveront aussi dans ces phrases l'expression de leur cœur. Je suis heureuse de comprendre enfin la parole, du moins je l'espère. Puisse votre enseignement m'ouvrir les yeux et le cœur afin d'être tout à fait pénétré de vérité et d'amour. Mon objectif suprême, c'est Christ. Cela n'a pas toujours été ainsi, mais je ne savais pas. Je ne me suis jamais senti si loin de lui que depuis le jour où j'ai enfin réalisé ce que je suis. Si vous saviez combien cela fait mal. Pourtant, je l'aime à m'en rompre le cœur. Oh, qu'il ne me fasse plus errer loin de lui, dans l'erreur, l'ignorance, et surtout la douleur, mais qu'il incline mon cœur jusqu'à lui, afin de lui céder totalement et pour toujours. Pourquoi n'ai-je pas connu tout cela auparavant? Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir fait avancer là où je suis aujourd'hui. Mais pour toucher au but, il me faudra beaucoup d'efforts de compréhension, avec la certitude de tout posséder enfin. Et en cela, la question du baptême me préoccupe beaucoup. J'ai compris qu'il m'était un bien nécessaire, mais je suis partagé entre la douleur de ne pas m'y être encore engagé, cœur et âme, et la pensée qu'un jour, il me faudra peut-être tout remettre en question une fois de plus. Rien pour l'instant ne me laisse présager une telle éventualité, mais j'en éprouve seulement la crainte. J'ai trouvé dans la Bible la voix de Dieu parlant à mon cœur, et mes pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Cette auditrice ajoute: comme vous devez trouver ma correspondance bien simple et surtout primaire. Mais non, madame, rassurez-vous. Ce qui retient notre attention, ce qui nous touche, c'est précisément l'humilité et la sincérité de votre ton. La simplicité d'âme et la sincérité sont deux conditions nécessaires pour faire partie de l'auditoire auquel s'adresse notre Seigneur. Jésus se plaisait surtout en compagnie de ceux qui étaient simples et sincères. Je crois que c'est ce qu'ils trouvaient à Béthanie, avec Marthe et Marie et Lazare, leur frère. Et si aujourd'hui votre lettre sert de base à nos remarques, c'est qu'elle exprime ce qu'il y a au fond de beaucoup de cœurs, en toute simplicité et en toute sincérité. Vous dites que vous avez eu mal le jour où vous avez compris combien vous étiez loin de Dieu. C'est vrai que du jour où l'on a pris la résolution de mettre à part quelques instants dans la journée pour écouter parler le Christ en lisant sa parole, un changement commence à s'opérer dans la vie. C'est parfois un bouleversement. Car le Seigneur n'a pas le même langage que nous. Il ne réagit pas comme nous. Il n'aime pas comme nous. Alors, on se sent un peu bousculé par lui. Mais c'est normal. Cet inconfort que l'on ressent, voire cette gêne, est bénéfique. On passe souvent son temps à se justifier. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais tué, jamais volé, etc. Mais on oublie que la plus grande offense que nous puissions faire à Dieu, c'est de nous tenir loin de lui, ou plutôt de le reléguer loin de nous, comme une chose encombrante et sans intérêt. L'Écriture qualifie cette attitude d'adultère, car la créature se porte vers des affections illégitimes après avoir dédaigné son Créateur qu'elle devait honorer et servir. C'est aussi une idolâtrie, car elle a préféré devenir esclave d'autres dieux plutôt que servante du seul vrai Dieu. Mais quelle découverte pour celui qui s'est laissé sonder par la parole de Dieu et qui a vu clair en son âme. Souvenez-vous du fils prodigue de la parabole de Jésus. La rupture d'abord, froide, calculée. Rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien. Éloignement, aveuglement, égarement, folie. Ensuite, c'est l'examen, car il rentre lui-même et il voit, il comprend, il souffre. Puis c'est la résolution, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et c'est l'assurance du pardon, car le Père est toujours là. Lui ne s'éloigne jamais, il attend, il espère. Et vous vous souvenez des paroles de Jésus. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Et quand le fils en haillons balbutie quelques mots pour se condamner lui-même, le père ne l'écoute même pas. Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Il faut vite se réjouir, car mon fils est revenu. Il faut s'accrocher de toutes nos forces à ces paroles. Celui qui les a prononcées est doux et humble de cœur. Elles parlent de l'amour du Père, de sa compassion, de son pardon. Il nous prend tel que nous sommes, et il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. Un auditeur de Paris m'écrivait, « Étant malade depuis plusieurs mois, je cherche un soutien moral impossible dans mon entourage. J'attends avec impatience votre réponse. Mais venir si tard à Dieu, et parce que tout semble fini pour moi, n'est-ce pas blâmable ? Dieu ne trouve jamais blâmable un repentir sincère et une conversion résolue. Il la provoque parfois au moyen d'une épreuve. Le père de la parabole aurait scruté l'horizon tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie. Et si la silhouette aimée n'était apparue qu'au dernier jour, il aurait été tout aussi heureux, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Vous voyez, chers amis, que l'Évangile n'est pas difficile à comprendre. C'est nous qui compliquons tout. Dès le premier contact, nous savons ce que Dieu attend de nous. Il vient jusqu'à nous pour nous dire à quel point il nous aime, tout en nous aidant à comprendre que sans lui, loin de lui, nous sommes comme un navire sans voile, sans gouvernail, sans port et sans but. « Tu te crois riche, dit Jésus. Tu t'imagines que tu n'as besoin de rien. Ne vois-tu pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu? Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Allons, un peu d'ardeur, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Quelle douceur paternelle, quelle ferveur, quel espoir dans ses appels. Et nous, quelles craintes, quels soucis nous font encore hésiter. Vous estimez que vos connaissances sont insuffisantes. Vous attendez de vous sentir inébranlable dans la foi avant de venir au baptême. Vouloir bien comprendre avant de s'engager, c'est tout à fait louable. Mais vouloir tout comprendre, c'est impossible. « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» demande l'Éthiopien à l'évangéliste Philippe. « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Telle est la réponse, telle est la condition, car Jésus avait dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Nous l'avons souvent souligné, cet acte est essentiellement un acte de foi, donc de confiance en Dieu. Seigneur, je ne comprends pas tout, et je me sens tellement faible et vulnérable encore, mais je veux faire ce que tu me demandes, et m'engager pour toi comme tu me le demandes, pour faire partie de ton peuple. Bien sûr que vos premiers pas ne seront que trébuchements. Bien sûr que les premiers mots de votre foi ne seront que balbutiements. Mais ces premiers pas, ces premiers mots, pour incertains et maladroits qu'ils soient, sont pour Dieu une merveilleuse offrande, un témoignage de confiance et de foi. On n'exige pas d'un enfant qu'il sache marcher résolument dès la première tentative. On n'exige pas qu'il soit libéré de toutes ses appréhensions avant d'essayer. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes exigent d'elles-mêmes dans le domaine spirituel. Je crains de ne pas y arriver, alors je préfère m'abstenir. Raisonner ainsi, c'est mettre toute sa confiance en soi-même, jusqu'à oublier les bras tendus du Père Céleste, qui nous encourage à faire ce premier pas si important dans sa direction. C'est dire « Non, merci, je ne m'aventurerai pas avant d'être sûr d'y arriver tout seul. » C'est prétendre devenir adulte avant d'avoir pris le temps de naître. Mes chers amis, si dans sa parole vous avez appris quelles sont ses espérances et ses commandements à votre égard, n'attendez pas pour agir. Ce n'est pas envers les hommes que vous vous engagez, ni pour faire partie d'une organisation humaine, c'est le Seigneur lui-même qui vous ajoutera à son Église. Vous ne pouvez donc pas vous tromper. Vous ferez partie de son peuple qui se compose de gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races, sortis des rangs du monde pour embrasser le Christ. Alors commencera réellement votre pèlerinage avec Dieu, un pas à la fois. Vos connaissances sont encore limitées, votre foi encore vacillante, mais vous venez de naître à cette vie nouvelle. Donnez-vous le temps de devenir ce que vous voudriez être. Mais ne soyez jamais satisfait du résultat. Pour pour que votre vie soit un constant devenir en présence de Dieu et avec son appui. Qu'elle soit aussi un champ de confiance, comme celui de David, que vous pouvez faire vôtre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.